Merci Daniel, merci à chacun de vous de nous accueillir aujourd'hui, ce matin. Avant de démarrer la prédication, alors je t'avais dit une durée approximative de 25 minutes, j'ai fait une petite répétition hier soir avant de me coucher, et on sera peut-être plutôt vers 30 minutes, est-ce que c'est ok? Ça va. Avant de démarrer dans le vif du sujet, peut-être me présenter très brièvement. Le groupe de jeunes m'a demandé de m'ont posé un petit peu des questions pendant le repas. Et du coup, je me suis dit, je vais me préparer un petit peu ce matin en trois mots pour me décrire. Le premier mot, c'est famille. Famille, je suis né dans une famille nombreuse, quatrième dans une famille de 7 enfants. J'ai toujours eu, je l'ai bien vécu. Et la famille a une place particulière dans ma vie, dans mon cœur. Le Seigneur m'a fait la grâce aussi de pouvoir me marier et d'accueillir trois enfants merveilleux. Ça me réjouit beaucoup et c'est vraiment une grâce, un bienfait de Dieu. Et la famille aussi en Christ. Dans notre parcours de vie, on a pu visiter différentes églises et cette unité familiale de frères et sœurs en Christ me touche beaucoup. Le deuxième mot, sport. J'ai toujours fait beaucoup de sport dans ma vie. J'ai fait mes études à STAPS, la faculté des sciences du sport, à Strasbourg. Et puis j'étais éducateur sportif en milieu hospitalier, dans la rééducation. Et donc, j'ai fait pédaler pour leur bien des personnes de plus de 55 ans, mais aussi d'autres personnes un peu plus jeunes qui avaient des pathologies qui nécessitaient une remise en forme. Voilà. Depuis que je suis à l'Institut biblique de Nogent, mes pantalons ont rétréci un petit peu et je fais un peu moins de sport, mais j'ai hâte d'entrer dans le ministère et de pouvoir m'y remettre un peu plus assidûment. J'aime beaucoup le foot, Daniel, tu as évoqué. Petit aparté, à Strasbourg, on a le chant des supporters, c'est « Un seul amour et pour toujours, Racing Club de Strasbourg ». Et puis le troisième mot, ce serait « Bible ». La révélation de Dieu dans l'Écriture. De prendre au sérieux la Bible qui est le fondement de notre foi. Et ce qui nous a encouragés à venir à l'Institut avec mon épouse, c'est de prendre au sérieux la parole de Dieu. On avait un groupe de maison toutes les deux semaines, donc on lisait, on était dans une lecture suivie des Actes. Et puis, on se posait trois questions. Qu'est-ce qu'on a appris sur Dieu? Qu'est-ce qu'on a appris sur l'être humain? Et qu'est-ce qu'on a appris sur la relation entre Dieu et l'homme? Et à chaque fois, toutes les deux semaines, revenait le même refrain. Dieu est fidèle, Dieu est puissant, Dieu est bon et il prend soin de ses enfants. Et donc, d'entreprendre des études à l'Institut, ça voulait dire démissionner de son travail, déménager toute la petite famille. Mais on s'est dit, si la Bible dit vrai, on va y aller parce que Dieu est bon et il prend soin de nous. Et trois ans plus tard, c'est... Je dis souvent, on pourrait écrire presque un bouquin, ou en tout cas un bon chapitre, sur la fidélité et la bonté de Dieu, qui pourvoit. Je vais te demander la gourde, je vais quand même prendre la gourde à côté de moi. Et puis la Bible aussi, parce que j'apprécie creuser l'Écriture et découvrir combien Dieu est merveilleux, quel est son plan d'amour, son plan de salut pour l'humanité. Donc ça, c'était hors les 30 minutes. On peut démarrer, si vous le voulez bien. Je vous propose de vous parler d'une relation renouvelée. Il y a de l'eau dans le gaz. Notre couple bat de l'aile. Il y a de la friture sur la ligne. Ou encore, ça va péter. Quelques expressions qui illustrent des difficultés relationnelles. Notre couple bat pas de l'aile, ça va. Mais vous avez certainement entendu aussi l'adage évangélique. La foi chrétienne, ce n'est pas une religion, mais c'est une... Ouais. En ce qui concerne la relation à Dieu, quand il y a de la friture sur la ligne, on parle éventuellement de sécheresse spirituelle. Et personnellement, j'irais même jusqu'à affirmer qu'on peut être en conflit avec Dieu. C'était mon cas en 2017, à l'occasion du décès de mon papa, qui est survenu en quelques mois, à la suite d'une maladie. Je croyais toujours en la puissance de Dieu, mais parce qu'il n'a pas guéri mon papa, c'était impossible pour moi de reconnaître sa fidélité et sa bonté. Et j'ai bataillé avec Dieu. Mais pourtant, Dieu ne change pas. Et dans ces moments compliqués, il m'a fait cheminer. Alors j'aimerais partager avec vous un texte biblique qui parle également d'une relation à Dieu renouvelée. Ça se situe dans le livre d'Ézéchiel, dans l'Ancien Testament, au chapitre 36 et les versets 25 à 32. Ézéchiel, qui appartient à une famille de prêtres de l'Ancien Testament, mais vous verrez qu'il a été déporté en exil, à peu près au début du 6e siècle avant Jésus-Christ. Et il a tout un ministère de prophétie, parce qu'en exil, il n'y avait plus de temple, il ne pouvait plus exercer en tant que prêtre. Mais il a eu un ministère prophétique. Ézéchiel 36, versets 25 à 32, on peut l'afficher. Et puis, je vais lire dans la version Bible du Semeur 2015. L'Éternel parle par la bouche d'Ézéchiel et dit « Je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Vous demeurerez dans le pays que j'ai donné à vos ancêtres et vous serez mon peuple et moi, je serai votre Dieu. Je vous délivrerai de toutes vos impuretés. Je commanderai au blé de pousser, je le ferai abonder et je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai les fruits des arbres et les productions des champs pour que, jamais plus, les autres peuples ne se moquent de vous parce que vous souffrez de la famine. Vous vous souviendrez alors de votre mauvaise conduite et de vos actes peu louables et vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos fautes et de vos pratiques abominables. Mais sachez-le bien, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte. Le Seigneur, l'Éternel, le déclare. Ô communauté d'Israël, ayez honte de votre conduite et rougissez-en. Fin de la lecture. Alors, après avoir étudié ce passage, je souhaite vous communiquer trois raisons d'espérer une relation renouvelée avec Dieu. Premièrement, espérer parce que Dieu purifie. Deuxièmement, espérer parce que Dieu est bon. Et troisièmement, espérer parce que Dieu est souverain. Espérer car Dieu purifie. Quel rapport, vous allez me dire? En quoi le fait que Dieu purifie, c'est une source d'espérance? Rappelons le contexte. Ézéchiel, le prophète, est en exil avec l'élite, les dirigeants, les chefs politiques et religieux du peuple d'Israël, en Babylonie. Ils ont été déportés de la terre promise, et Dieu rappelle pourquoi au verset 17 du même chapitre. Leur conduite était en effet aussi impure à mes yeux que l'impureté menstruelle. J'ai répandu ma fureur contre eux à cause des crimes qu'ils avaient commis dans le pays, et parce qu'ils avaient rendu le pays impur par leurs idoles infâmes. Je les ai dispersés parmi les autres peuples, ils ont été disséminés en divers pays. J'ai exercé sur eux le jugement que méritaient leur conduite et leurs actes. Quand Dieu a fait alliance avec son peuple, après la libération d'Égypte, via Moïse, le contrat a été très clair. L'alliance est un contrat. Il y avait des clauses de bénédiction, si le peuple obéissait, et des clauses de malédiction si le peuple désobéissait. Et le livre du Deutéronome souligne particulièrement des malédictions, l'infertilité du pays, pas de ressources agricoles, mais encore la honte parmi les autres peuples, ou encore la captivité parmi les nations. On peut lire dans 2 Rois au chapitre 24 le récit historique de cet exil comme juste jugement de Dieu, comme juste sanction des actes mauvais du peuple. Et c'est là que la purification intérieure que ce texte nous montre, qui est opérée par Dieu, c'est là que c'est une source d'espérance. Jérémie, le prophète, qui lui était resté sur la terre d'Israël à la même période, il révèle le vrai problème du peuple. Je vous lis. Le cœur est tortueux, plus que toute autre chose, et il est incurable. Qui pourrait le connaître ? Moi, l'Éternel, moi, je sonde les cœurs, je scrute le tréfonds de l'être pour donner à chacun ce que lui auront valu sa conduite et les effets de ses agissements. Sans un réel changement profond du cœur, le peuple est condamné à désobéir et du coup à être sanctionné par Dieu. C'est pour ça que le discours prophétique d'Ézéchiel est une source d'espérance. Et nous pouvons relever trois éléments de cette opération intérieure. La première chose, c'est la purification. Je relis le verset 25. Dieu dit « Je répandrai sur vous une eau pure, afin que vous deveniez purs. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. » Cette promesse de purification ne s'est pas réalisée tout de suite au retour d'exil, mais elle s'est réalisée à la croix, là où Jésus-Christ a donné sa vie. Toutes les règles de purification de l'ancienne alliance ou tous les sacrifices ne pouvaient pas rendre pur le peuple de Dieu. Mais la Bible affirme dans la lettre aux Hébreux, « Approchons-nous donc de Dieu avec un cœur sincère, avec la pleine assurance que donne la foi, le cœur purifié de toute mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. » Oui, la foi en Jésus-Christ, Dieu incarné et mort à la croix, permet d'être purifié, pardonné et accepté dans la présence du Dieu trois fois saint. Deuxième élément de cette opération intérieure, la réception du Saint-Esprit. Je lis le verset 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'enlèverai de votre être votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit. » Alors, ce n'est pas une opération chirurgicale, mais une opération spirituelle. Et voici ce que Jésus déclare à Nicodème, un chef religieux dans l'évangile de Jean. Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître de la naissance, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. À moins de naître d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et cette promesse du don de l'Esprit Saint est réalisée le jour de la Pentecôte. On peut lire ça dans le livre des Actes. Et depuis cette période, depuis ce moment de la Pentecôte, toute personne qui confesse sa foi en Jésus-Christ reçoit le Saint-Esprit. Et troisième élément de cette opération intérieure, ou une conséquence de cette opération intérieure, c'est la capacité d'obéir à Dieu. Je lis le verset 27. « Je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. » L'Esprit de Dieu rend capable de vivre selon la volonté de Dieu et d'obéir à ses commandements. L'Esprit de Dieu travaille à l'intérieur du croyant pour lui faire aimer et lui faire comprendre la parole de Dieu et lui donne la force de l'appliquer. Philippiens 2, verset 13 nous dit « Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet bienveillant. » On le voit pour le peuple d'Israël, être purifié, recevoir le Saint-Esprit et avoir la capacité d'obéir à Dieu, c'est source d'espérance. Parce que ça veut dire ne plus être sanctionné ni rejeté par Dieu, mais rester dans l'alliance, rester en relation avec Dieu et être au bénéfice de toutes ses bénédictions. pour le peuple de Dieu aujourd'hui, pour nous qui confessons notre foi en Jésus-Christ. Ce texte est une source d'espérance également, parce qu'il rappelle que nous avons été purifiés et que le Saint-Esprit est en nous et qu'il nous donne la capacité d'obéir à Dieu, de vivre selon sa volonté. Alors, il arrive que nous trébuchons dans notre marche. Il arrive qu'on se sente sali par le péché. Mais les frères et sœurs de l'Église sont là pour proclamer le pardon de Dieu. Une lettre de l'apôtre Jean dit « Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. » J'ai démarré en déclarant « Espérer, Dieu purifie ». J'avoue que le lien n'était pas hyper intuitif entre l'espérance et la purification. Et peut-être que certains se crisperont en entendant le deuxième encouragement. Espérer parce que Dieu est bon. C'est vrai, selon les circonstances que j'évoquais dans l'introduction, il peut paraître choquant de penser, de croire ou même d'affirmer que Dieu est bon. Il n'y a qu'à regarder les infos et l'actualité du monde pour se demander « Mais où est Dieu ? Qu'est-ce qu'il fait ? Est-il vraiment bon ?» Mais il me semble pourtant que ce texte, ces paroles divines, adressées aux membres du peuple en exil, qui sont déportés de la terre promise, ils sont sans lieu de culte, ils sont entourés de faux dieux et de pratiques religieuses abominables pour un juif pieux. Et dans ce contexte-là, Ézéchiel proclame la bonté de Dieu. En plus des bonnes promesses qu'on vient de voir, la purification, le don du Saint-Esprit et la capacité d'obéir, je relève 5 mentions du verbe « donner » dans ce texte. Alors c'est le verbe « donner » en hébreu, mais il est traduit des fois de différentes manières. On voit que Dieu donne un cœur nouveau, un cœur de chair, Dieu donne son esprit, Dieu a donné le pays aux ancêtres du peuple, et Dieu ne donnera plus de famine. 5 fois le verbe « donner », ça révèle bien la bonté de Dieu. Et j'aimerais relire les versets 29 et 30 qui évoquent particulièrement la providence divine, l'action de Dieu sur la création, les bénédictions à profusion. « Je vous délivrerai de toutes vos impuretés, je commanderai au blé de pousser, je le ferai abonder, et je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai les fruits des arbres et les productions des champs pour que, jamais plus les autres peuples ne se moquent de vous, parce que vous souffrez la famine, l'abondance. Et c'est précisément dans la détresse, lorsque le peuple semble maudit, loin de sa terre, que le Créateur, le seul Dieu vivant, proclame sa bonté et répète sa promesse de bénédiction agricole, conforme aux clauses de l'Alliance. En arrêtant la lecture ici, on pourrait tirer du texte l'application suivante. Dans la détresse, espérons, parce que Dieu est fidèle et ce qu'il a promis va s'accomplir. Attendons le bonheur. Mais écoutons les versets 31 et 32. Vous vous souviendrez alors de votre mauvaise conduite et de vos actes peu louables, et vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos fautes et de vos pratiques abominables. Ô communauté d'Israël, ayez honte de votre conduite et rougissez-en. Très étonnant. La preuve de la bonté de Dieu peut nourrir l'espérance, mais ce passage nous montre que la bonté de Dieu doit nous amener à changer. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans une lettre aux chrétiens de Rome. Méprises-tu les trésors de bonté, de patience et de générosité déployés par Dieu, sans te rendre compte que sa bonté veut t'amener à changer ? Sa bonté veut t'amener à changer. Ça me fait penser à quelqu'un dont je suis proche. Et en général, chaque année à son anniversaire, je lui adresse mes bons vœux et je remercie Dieu de le connaître et je lui adresse quelques qualités pour l'encourager. Et voici une phrase qu'il me répond presque systématiquement. Tu sais, Joël, je suis un sauveur, un pécheur, pardon, sauvé par grâce. Je suis un pécheur sauvé par grâce. Alors, à l'image de ce frère, que les bontés de l'Éternel qui se renouvellent chaque matin nous poussent à reconnaître que nous aussi, nous avons été profondément rebelles et condamnés, séparés de Dieu, mais que nous sommes graciés par la foi en Jésus-Christ. Nous sommes pardonnés. Troisièmement, espérer, car Dieu est souverain. Nous pouvons espérer une relation renouvelée avec Dieu, car il purifie et nous rend capables de lui obéir grâce au Saint-Esprit en nous. Nous pouvons espérer une relation renouvelée avec Dieu, car sa bonté nous pousse à changer de mentalité. Et troisièmement, espérer, parce que Dieu est souverain, il dirige les circonstances. Enfin, un lien un peu plus évident. La souveraineté de Dieu se manifeste dans la maîtrise des événements de l'histoire humaine. Et tout ça pourquoi ? Pour l'honneur de son nom. Le texte dit « Sachez-le bien, ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, le Seigneur l'Éternel le déclare. » Ce verset 32 fait écho aux versets 22 et 23 du même chapitre. « Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. » Si je vais intervenir, ce n'est pas à cause de vous que je le fais, ô communauté d'Israël, mais c'est par égard pour moi-même, moi qui suis saint et que vous avez profané parmi les peuples chez lesquels vous êtes allés. Je démontrerai ma sainteté, moi qui ai été profané parmi les autres peuples, par votre faute. Et ces peuples reconnaîtront que je suis l'Éternel. Le Seigneur, l'Éternel le déclare. Quand je ferai éclater ma sainteté à leurs yeux, par mon œuvre envers vous. » Cet encadrement littéraire, versets 22 et 32, sur l'honneur de Dieu qui est en jeu, explique la formule du verset central, la formule de l'Alliance au verset 28. « Vous demeurerez dans le pays que j'ai donné à vos ancêtres et vous serez mon peuple, et moi je serai votre Dieu. » Au centre, la déclaration d'Alliance, que Dieu fait, est expliqué par cet encadrement. Pour l'honneur de son nom, Dieu fait alliance avec son peuple. Autrement dit, Dieu renouvelle l'alliance qui a été bafouée pour restaurer son honneur. En Deutéronome 4, on lit que les prescriptions de l'Éternel doivent être appliquées pour que les peuples alentour voient la sagesse et l'intelligence du peuple de Dieu et reconnaissent la grandeur de leur Dieu, qui se tient proche et qui édicte des lois justes. Le peuple juif a été élu par Dieu. L'ancienne alliance, le jugement de l'exil et aussi la nouvelle alliance, ce sont tous des événements dirigés par Dieu pour que l'humanité reconnaisse sa souveraineté, sa supériorité, sa sagesse, sa justice. Cette prophétie d'Ézéchiel rappelle au peuple élu que Dieu dirige les événements, Dieu dirige sa relation avec son peuple pour que sa souveraineté soit reconnue. Pour illustrer, on peut penser que le vocabulaire ou les techniques de vente d'un commercial représentent en partie les valeurs de son entreprise. Ou alors le soin et l'application d'un personnel hôtelier met en jeu la renommée de l'établissement qu'il emploie. En tant que parent, on peut être fier ou embarrassé du comportement de son enfant. Et de la même manière, notre relation à Dieu, notre attitude au quotidien, contribue à ce que Dieu soit glorifié ou dénigré. Voici les paroles de Jésus à ses disciples. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Que ce commandement du Seigneur Jésus nous incite à aller les uns vers les autres, à prier ensemble, à nous entraider, comme on a été encouragé ce matin, mais aussi à demander pardon, à accorder le pardon pour l'honneur de son nom. Si Saint-Esprit nous pousse à cela, c'est que c'est bon pour nous, c'est bon pour l'Église, mais c'est surtout bon pour sa gloire à lui. J'arrive à la conclusion. Rappelons les trois raisons d'espérer une relation renouvelée avec Dieu. Dans le chaos d'une relation brisée, espérer parce que Dieu purifie. La foi en Jésus-Christ, crucifié pour les péchés de l'humanité, assure le pardon et la réception du Saint-Esprit pour marcher dans ses voies. Dans le tumulte des émotions, espérer parce que Dieu est bon. Et croire en sa bonté, c'est reconnaître aussi que nous étions coupables, mais que nous sommes pardonnés, nous sommes graciés. Et enfin, quelles que soient les circonstances, espérer, car Dieu est souverain. La foi, c'est accepter que les événements se déroulent selon son plan parfait, et c'est aussi agir pour sa renommée. Je vous l'ai confié en introduction, ma foi en Dieu a été sérieusement ébranlée il y a quelques années. Mais le Seigneur m'a fait la grâce de se révéler. En quelques mois, il s'est révélé d'une manière nouvelle, comme le Père parfait. En lien avec la purification et le don du Saint-Esprit, c'est à cette période difficile de ma vie que les témoignages intérieurs du Saint-Esprit a été plus fort. Romains 8 dit « Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Ce sentiment d'avoir ce Père céleste toujours présent alors que mon Père terrestre a quitté ce monde. Alors que je cherchais conseil, approbation auprès de mon Père terrestre, je m'adresse dorénavant au Père céleste, parfait. Et je cherche à écouter sa voix dans la parole écrite. Par rapport à la bonté de Dieu, ah oui, c'était difficile de croire que Dieu demeure bon. Mais je crois que le Saint-Esprit a mis le doigt sur mon égoïsme, sur ma volonté de juger moi-même qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui est injuste. La tristesse et la colère avaient fermé mes yeux sur tous les cadeaux et tous les bienfaits que Dieu m'avait accordés depuis 32 ans. Mais un enseignement, un cours sur les prophètes m'a poussé à reconnaître et à proclamer la bonté de Dieu, quelles que soient les circonstances, pour l'éternité. Enfin, en ce qui concerne la souveraineté de Dieu, les partages bibliques en groupe de maison m'ont amené à prendre conscience des injustices terribles qu'ont enduré certains personnages bibliques, certaines personnes. Joseph, un des fils de Jacob dans l'Ancien Testament. Ou alors Jésus, encore l'apôtre Paul dans le Nouveau Testament. Et dans l'épreuve qu'ils ont traversée, ce qui m'a marqué, c'était leur attitude confiante en Dieu et patiente. Mais aussi la sagesse et la puissance de Dieu qui est capable de changer le mal en bien, selon son plan de salut pour l'humanité. Alors après avoir exprimé ma colère, ce sont ces trois choses qui m'ont aidé à renoncer à la colère. La conviction d'être enfant de Dieu, la reconnaissance de la bonté de Dieu malgré tout, et la confiance en sa juste souveraineté. Cette relation à Dieu, elle suit un processus, un chemin sur lequel Dieu écoute, et Dieu agence toutes choses pour nous faire avancer selon son tempo. Si vous ne savez pas trop où vous en êtes dans votre relation avec Dieu, ou que vous êtes curieux de le découvrir ou d'apprendre à le connaître, sentez-vous libre d'interpeller un responsable de l'Église à la fin de la célébration ou moi-même. Ma prière pour vous et pour nous tous, c'est que le Seigneur vous attire à lui pour expérimenter son pardon, expérimenter sa bonté et la confiance dans sa souveraineté. Au niveau individuel, mais aussi en tant qu'Église. Une relation renouvelée pour l'honneur de son nom. Merci de votre attention.